Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, bonsoir. Il est 22h04 et la causerie démarre en ce dimanche 9 janvier 2022. Et nous allons donc commencer par faire un truc très traditionnel, vous présenter nos meilleurs vœux. Voilà. Et comme on disait avec les copains et copines qui sont partis de Dead Moon Night juste avant, elle est déjà un peu longue cette année, non? Voilà. Eh bien, bienvenue. Ah, vous la causerie pour ceux qui connaissent pas et qui découvriraient en janvier 2022. Eh ben, on a 8 ans. Voilà. Et donc, tu peux retrouver toutes les émissions sur blogs.radiocanu.org/la causerie. Et si tu veux nous écouter, bah, c'est au 102.2 à Lyon, la région. Bon, j'espère que là, tu es au 102.2. Sinon, c'est sur radiocanu.org. Et tu as aussi tous les sites de balado-diffusion des radios en streaming. Voilà, parce que ça y est, ça remarche, donc oui. On est content. Et merci aux gens qui s'en occupent bénévolement à Radio Canu. Voilà, parce que c'est une radio autogérée et bénévole. Oui, je fais un petit peu comme si c'était un peu notre première, tu vois.
Mais tu fais bien de rappeler le béaba de Radio Canu.
Donc,
mais
pendant les vacances, il y a des petites mains qui ont travaillé, qui ont changé des micros, des casques, des machins, d'autres qui sont branchés sur le site informatique, d'autres, voilà, c'était vraiment, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et sinon, si tu veux nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com. Et pour retrouver les podcasts, donc c'est soit sur le blog, soit sur la plupart des agrégateurs de podcasts. Tu nous retrouves, tu tapes lacausericanu et on est là. Voilà.
Tout à fait.
J'ai dit tout bien?
Mais je crois que oui. Hein.
Et là, maintenant, on va se détendre parce qu'on va parler CBD.
Tout à fait.
On a dit bonsoir.
Ah pardon, j'ai oublié de dire qu'il y avait Clara la technique.
Bonsoir.
Pardon, et j'ai oublié de dire qu'il y avait Jean-Yves aussi.
Bonsoir Fab.
Bonsoir, voilà.
Il tient le crachoir, mais il oublie tout.
Mais non, mais voilà, pardon. Il est dans le stress.
Non, je suis calme, tout va bien.
Calme-toi.
Allez.
Donc effectivement, ce soir, je vais vous parler d'un arrêté qui a été pris par le pouvoir politique français, plus précisément le ministère de la Santé, au sujet du CBD. Mais je me suis dit que peut-être avant d'aller plus loin, ça pourrait être utile de définir 2-3 petites choses dont on entendra parler dans la suite. Bah déjà, qu'est-ce que c'est que les cannabinoïdes?
C'est déjà dur à dire, a priori.
Mais pourtant, c'est moi qui ai fait le sujet. Parce que ça, on va l'entendre. Alors, en gros, en fait, ce sont les composants chimiques du cannabis qui produisent les effets médicaux pour les patients et récréatifs pour les consommateurs et consommatrices récréatifs. Les cannabinoïdes sont simplement en fait un composé chimique du cannabis qui provoque certaines réactions lorsqu'ils sont ingérés sous la forme de fumée ou de vapeur, ou à travers l'estomac lorsque c'est ingéré, mangé. Alors, ils peuvent également traverser la peau, comme c'est le cas par exemple avec des crèmes au cannabis. Alors les cannabinoïdes en fait ont été découverts en 1940 par Roger Adams aux États-Unis et confirmés par le docteur Raphaël Meshulam à l'université hébraïque de Jérusalem. Alors ces produits chimiques fonctionnent en fait en synergie avec le corps et en particulier avec le système endocannabinoïde. qui est dans notre corps. Hein.
Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les fameux récepteurs cannabiques, hein, c'est donc les systèmes endocannabinoïdes.
Oui, oui, non, mais si on prévient tout de suite Gérald Darmanin, s'il devait écouter, il faut s'arrêter soi-même parce qu'on a un système cannabinoïde.
Oui, c'est vrai.
C'est, vu mais, qu'il n'aime pas ça.
Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faisait dire depuis des années, qu'en fait, l'être humain est proche de cette substance depuis très longtemps. Oui. Parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a des habitudes génétique ou physique, et donc du coup voilà, c'est intéressant de se dire ça,
bah monsieur oui.
Darmanin et d'autres.
Voilà. Alors pour finir hein, sur ces cannabinoïdes, il faut savoir qu'en fait dans la plante de cannabis, il y a plus de 111 cannabinoïdes. Et les plus connus hein, sont évidemment, pour les citer, le THC et le CBD, et il y en a d'autres aussi hein, dont on parle parfois, ou je pense qu'on va surtout en entendre parler dans les années à venir, comme le CBN ou le CBG, et des variantes comme le THCV ou le CBDV.
Il y a une grosse recherche en ce moment sur les cannabinoïdes.
C'est ça.
Et pas que pour l'aspect récréatif ou
machin,
aussi parce que c'est des substances qui potentiellement peuvent avoir des effets dynamiques sur certaines maladies.
C'est ça. Alors à l'heure qu'il est, on peut se dire, mais qu'est-ce à quoi alors le THC ? Pour celles et ceux, évidemment.
Qu'est-ce que le THC ?
Pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est, il n'est jamais trop tard.
Je vais être ton candidat ce soir. C'est quoi le THC ?
Non, mais en même temps, voilà. Donc, le THC, hein, ou plutôt le tétrahydrocannabinol, est la molécule en fait responsable des principaux effets psychoactifs du cannabis. En gros, c'est ce qui défonce.
Hein, c'est l'herbe qui fait rire.
C'est ce qui mène à l'ivresse, on va dire, cannabique. Il agit en fait comme les cannabinoïdes produits naturellement par notre corps au sein du système endocannabinoïde. La liste hein, des effets du THC peut être très longue, comme par exemple la stimulation des cellules du cerveau pour relâcher de la dopamine, créant un effet d'euphorie. On a aussi de la relaxation, du soulagement de la douleur, mais le THC peut aussi déclencher de l'anxiété, de la tachycardie ou des pertes de mémoire à court terme, ou encore avoir un impact sur la santé mentale de certaines personnes et déclencher une rechute de symptômes schizophréniques.
Comme toute substance active ou proactive à l'intérieur du corps, il peut y avoir des effets secondaires pas bénins pas forcément agréables. Mais c'est valable aussi pour l'alcool, c'est valable pour plein de
évidemment.
Médicaments. C'est, voilà, donc c'est toute substance active. S'accompagne de risques.
C'est ça. Et un autre risque hein, de la consommation de THC vient sous la forme de l'affaiblissement des capacités motrices. Le cannabis peut nuire à la conduite et à des tâches similaires jusqu'à 3 heures après la consommation. Et en fait, c'est quand même la deuxième substance hein, trouvée chez les conducteurs après l'alcool. Donc, c'est pas un truc qui est peu consommé. Hein.
Dans un pays où on est l'un des plus gros consommateurs en Europe,
c'est
logique.
Ça. Donc, évidemment, la consommation de cannabis, elle peut aussi causer des problèmes à long terme chez les jeunes, notamment sur le développement des facultés cérébrales et sur la mémoire. Ouais, en fait, ici, il n'y a aucune envie de diaboliser une substance, qu'on soit très clair, mais j'essaie juste d'être le plus objectif possible, en fait, comme on peut être très rarement avec l'alcool. Mais voilà, je pense que toute substance, en fait, il n'y a rien qui est neutre.
Et non,
donc,
c'est ça.
Je pense toujours qu'une politique en fait qui se veut à minima, je sais pas comment dire, émancipatrice, c'est pas une chose qui repose sur les interdits, mais sur les connaissances en fait. C'est-à-dire qu'en connaissant les substances, on sait mieux les consommer et on sait faire attention aussi. C'est-à-dire que si vous êtes sujet à certaines choses, si vous voyez que ça recommence en consommant du THC, du cannabis THC, vous savez qu'il vaut mieux arrêter, que ça ne sert à rien de consommer parce que ça pourrait augmenter des problématiques. Mais si ça ne vous fait rien...
Mais on peut le dire très clairement, hein, que ce soit l'alcool ou le cannabis, il faut éviter avant que le cerveau soit à peu près bien
formé. Ah mais
formé.
Oui, oui, assez clairement, oui.
Donc il faut éviter avant 16-18 ans, très clairement, parce que c'est la période où, même si c'est là où on commence à les consommer.
C'est ce que j'allais dire. Mais encore une fois, c'est toujours... est-ce qu'il faut peut-être plutôt que de dire aux jeunes et aux ados arrête de consommer, plutôt
non,
dire...
j'ai bien dit éviter.
Oui, c'est ça, c'est plus en fait...
Qu'est-ce que c'est
voilà. Parlons clairement, ouvertement de ce que sont les substances. Bref, donc là je vous ai parlé du THC. Hein. Et enfin on peut se demander qu'est-ce à quoi le CBD ?
Et qu'est-ce à quoi le CBD ?
Merci. Le CBD, hein, de son nom officiel, le cannabidiol, est un ingrédient du chanvre et du cannabis. Alors les niveaux de CBD, hein, comme de THC, varient forcément beaucoup en fonction des variétés de marijuana. Et les plants cultivés à destination d'un usage récréatif, donc pour cet effet d'euphorie, d'ivresse, dirons-nous, plutôt que de défoncer, parce que je trouve qu'il y a un truc aussi assez péjoratif finalement.
Oui, parce qu'on dit parce rarement que... quand les gens boivent qu'ils défoncent.
C'est ça.
On dit « Ah, c'est festif !»
C'est ça, bon, c'est voilà. Juste c'est ce qui amène l'ivresse. Bah forcément, hein, ceux qui sait, quand c'est pour la consommation récréative, vous avez un taux de THC plus élevé qu'en quantité de CBD, qu'un taux de CBD. Néanmoins, en utilisant des techniques de reproduction sélective, en fait, les horticulteurs ils sont arrivés à créer des variétés à des taux plus forts en fait, de cannabidiol, donc de CBD, et très faibles en THC. Donc, avec les bienfaits du CBD et très peu, voire en fait, quasi même rien en fait, de THC, donc de ce qui pourrait amener à l'ivresse.
Et l'inverse existe aussi.
Mais bien sûr,
qu'on a
évidemment.
Aussi concentré des plants en THC et en CBD.
Mais oui, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que souvent beaucoup dénoncent en fait, c'est qu'aujourd'hui, avec le marché noir, etc., on est à des taux de THC qui sont à 15%, 18%, 20%.
Ce qui est très élevé.
Ce qui est très élevé, là où dans les années 70, on avait des taux beaucoup plus bas. Beaucoup plus faible en THC en fait.
Et je ne crois pas qu'on ait encore interdit l'armagnac ou le cognac en France.
Non.
Parce que le taux d'alcool est très élevé.
Effectivement.
Vous voyez, par
effectivement,
exemple.
C'est vrai, tu as raison.
Donc voilà, donc, pour faire des parallèles,
non,
parce
raison.
Que c'est intéressant de voir aussi, on dénonce, et à juste titre, hein, mais encore une fois, c'est plus de l'éducation
oui.
à l'utilisation des substances qui est importante
ça.
Et intéressante qu'une une sorte de peur en disant oh là là, il y a 18%. Oui, c'est élevé. Mais quelque part, si on fait un parallèle avec l'alcool, c'est comme quand vous buvez un rhum pur ou comme quand vous buvez une vodka pure. Voilà quoi, vous ne buvez
ça.
Pas la même quantité en théorie que quand vous buvez du vin, que quand vous buvez de la bière.
Bon, en tout cas, il faut que tu saches ce que tu as
voilà.
entre les mains. En fait, c'est aussi ça la problématique
oui,
avec la.
Ce que tu as entre les mains. Ouais.
Mais c'est la problématique avec le fait d'être dans un pays où c'est une réglementation qui interdit, c'est que finalement, tu n'as pas ces informations-là.
Oui,
donc, on va avoir des consommateurs qui vont acheter des substances et qui vont avoir des taux de dingue et qui vont se sentir hyper mal parce que le taux sera super haut. Quoi.
Et qu'ils ne l'anticipent pas.
Oui, c'est ça,
c'est
exactement ça. Bref, on peut se demander, hein, effectivement, aussi le CBD, tiens, quelle influence ? Alors, il faut savoir...
Le CBD, quelle influence ?
Mais c'est incroyable, hein, vraiment, quelle spontanéité, j'ai envie de dire. Dans le corps humain, le CBD, en fait, il influence l'activité des récepteurs cannabinoïdes et encourage, en fait, la production des endocannabinoïdes naturels du corps. Hein. Donc, fait intéressant, c'est que le CBD affecte également l'activité au-delà du système endocannabinoïde et peut également interagir avec les récepteurs opioïdes, dopaminergiques et sérotoninergiques. La capacité du CBD en fait, à interagir avec autant de systèmes différents dans le corps suggère qu'il a le potentiel d'ouvrir de nouvelles frontières en psychiatrie et en médecine. En fait. Et à la différence, évidemment, vous l'aurez certainement compris, hein, du THC, le CBD, lui, il n'amène pas à l'ivresse. Hein.
Non, c'est un calmant même.
C'est ça, ça ne fait pas du tout planer, hein, si on peut dire ça comme ça. Et si évidemment, hein, pour ceux qui ont envie de planer, ils prennent du CBD et ça va vachement les faire chier. Mais par contre...
C'est un hyper détendant, comme
oui,
on dit. C'est-à-dire que c'est
plus
de planer, t'as tendance à...
Oui,
et ça ne marche pas sur tout le monde.
À te décontracter,
ouais.
Oui. Et donc voilà, mais par contre, ça donne à la substance en fait, un avantage significatif en tant que médicament et les professionnels de la santé préfère évidemment donner un traitement à quelqu'un qui a le moins d'effets secondaires possible. Donc évidemment, pour ceux qui se soignent avec, il ne faut pas qu'il y ait de THC à l'intérieur. Donc voilà, alors après j'ai encore d'autres trucs, mais je n'ai pas envie de vous saouler avec tout ça. Donc j'ai plutôt envie qu'on en revienne en fait au sujet premier, hein, c'est-à-dire l'arrêté ministériel. Donc on peut se demander déjà qu'est-ce qui est dit dans cet arrêté. Donc le texte publié en journal officiel vendredi 31 décembre offre en fait un nouveau cadre réglementaire au business du CBD. Parce que où vous viviez, parce que je pense que ça s'est développé vraiment assez largement, vous voyez... Normalement, assez souvent, des...
Fleurir
des, oui, ouh, c'est joli. Fleurir des boutiques de CBD. Donc, c'est un peu, voilà, ça vient encadrer tout ça. Alors, il faut savoir, en fait, hein, que ce texte, que cet arrêté, était très attendu par les professionnels de la filière parce que des dizaines de boutiques ont été fermées ces dernières années par les autorités policières et judiciaires en s'appuyant sur l'arrêté du 22 août 90 qui est remplacé par ce nouvel arrêté qui est paru le 31 décembre. Alors il faut savoir, hein, justement, c'est aussi important, c'est l'arrêté de 1990, lui, en fait, n'autorisait que la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des variétés de cannabis sativa, elle, uniquement pour les fibres et les graines, avec un taux de THC qui ne serait pas supérieur à 0,20%.
Ouais, pour être clair, on s'est arrêté là.
Attends, parce que je viens, parce que moi, je n'ai pas encore dit ce qu'il fait, le nouvel arrêté. Le nouvel arrêté, lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L, dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30%. Et que les fleurs et les feuilles de variété sativa L ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extrait de chanvre. En fait, cette restriction impose donc que soit interdite la vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes sous toutes les formes, seules ou avec ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation. Donc,
ben en fait, ça avantage vachement les industriels et très peu les petits producteurs.
C'est tout à fait
si
ça.
Si on regarde bien, parce que c'est que de la transformation et pas du brut.
Mais en même temps, c'est ce que je disais derrière, c'est que donc la culture en fait de certaines variétés peut exister en France, mais que dans l'optique d'une utilisation d'extrait de chanvre dans l'alimentation ou dans les cosmétiques pour des produits dénués de toute substance psychotrope. Donc, il faut quand même savoir que dans tout ça, ce qui fait un peu chier tous ceux qui ont un business en fait, le commerçant de CBD, c'est qu'en fait, les fleurs et les feuilles, c'est ce qui se vendait le plus.
Bah, c'est logique.
Donc, c'est là où arrive le problème, dirons-nous, c'est qu'en fait, ils viennent de dire, en même temps que de dire on peut faire pousser, on peut vendre, on peut, etc., les fleurs pour les transformer, ce qui avant était interdit, en même temps, ils en profitent pour finalement favoriser les gros, parce que seuls les gros pourront transformer, etc., etc.
C'est très macronien, genre de en même temps.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a ouvert le marché en truc, en même temps, on l'a suffisamment cadré pour qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir des petites structures qui vendent juste leurs fleurs, en fait.
Oui, parce qu'en fait, pourquoi on dit ça autour de cette table, c'est parce qu'en fait, pour extraire du cannabis, pour faire des huiles correctes et tout ça, ça demande quand même un matériel qui est conséquent. Enfin,
plus que juste de vendre ta fleur.
Voilà, et c'est ce que j'allais dire, plus que d'avoir un séchoir et de vendre la fleur. Donc, automatiquement, ça va obliger les gens à acheter. Enfin, s'ils veulent aller dans la légalité, il faudra qu'ils achètent de l'outillage ou qu'ils revendent leur production finalement à grosses filières, souvent détenues par quelques multinationales qui ont bien compris que ça rapportait un max.
On peut dire que ça rapporte un max. Alors, on peut aussi remarquer le taux de THC, vous avez remarqué qu'entre 90 et là, cette dernière arrêtée, il a augmenté de 0,2 à 0,3%.
Non, mais c'est l'Europe, ça, il me semble.
Oui, ouais. En fait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, la France, elle a anticipé en fait, l'entrée en application de la politique agricole commune, dont la version pour la période 2023-2027, adoptée par le Parlement européen, prévoit justement de relever en fait, le taux de 0,2 à 0,3.
Alors, c'est 0,30.
Oui, 0,30, pardon.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lié en fait, aux analyses. Quand ils avaient mis un taux à 0,2, quand vous mettez 0,2, c'est que vous ne pouvez pas être à 0,23.
Ouais.
Parce que vous êtes au-dessus de 0,2. Sauf que là, en fait, en mettant. Vous pouvez être à 0,23 et ça redescend à 0,2. Sauf qu'en fait, là, le gouvernement dit qu'on ne pourra pas être à 0,33. Parce que c'est 0,330, vous voyez. Donc en fait, c'est pour faire semblant de dire on maîtrise à mort.
On cadre.
En fait, en réalité, c'est juste que dans la production, ça oscillait entre 0,15 et 0,25. Donc comme ça, tout le monde est content.
Ouais. Et en même temps, il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, le taux de THC admis dans du cannabis CBD, c'est 1%. Donc c'est là aussi où tu te dis, mais en fait, est-ce que 1%, d'un coup, les gens vont être complètement défoncés ? Je ne pense pas.
Non, je crois qu'il faut atteindre 4-5%
oui,
pour commencer à avoir
dire.
Un effet psychotrope.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. Donc ce texte et son application après plus d'un an d'élaboration marquent en fait une étape de plus dans ce long débat juridique qui entoure le CBD. Avec, on a d'un côté, je présente à ma droite le gouvernement qui s'oppose à sa vente en France, évidemment, parce que quand même. Et de l'autre, en fait, il y a la justice européenne, puis la Cour aussi de cassation, qui ont jugé qu'elles ne pouvaient être catégorisées, donc les fleurs CBD et la substance en tout cas CBD, comme un stupéfiant ou un médicament, et que donc, bah, sa vente ne pouvait pas être interdite. Pour plus un peu de précision, la Cour de cassation, en fait, le 23 juin 2021, avait estimé bah, que le CBD pouvait être vendu en France s'il était produit dans un autre pays européen, mais n'a pas tranché sur la question de fond d'une interdiction de commercialisation au nom de l'objectif de protection, enfin de protection de la santé publique. Et la justice européenne, elle, en fait, c'était en novembre 2020, bah, elle avait rejeté l'interdiction de ce cannabis light, aussi appelé chanvre bien-être en France, en soulignant bah, l'innocuité de la molécule CBD et qu'elle ne pouvait donc pas être considérée comme un stupéfiant ou un médicament. Donc, on peut se dire, bah, c'est une avancée pour certains, hein, évidemment, bah, les cultivateurs professionnels et les industriels. Par contre, les propriétaires de magasins ne pourront, eux, plus vendre de fleurs ou de feuilles brutes, ce qui était quand même le gros de leur vente. Hein. C'est 70%,
ouais,
je crois.
70%, ouais, ouais. C'est énorme.
C'est 70%, hein. Je crois, de leur vente. Donc, évidemment. Alors après, je me suis quand même dit, hein, que je fais confiance quand même à tous ces businessmen pour retomber sur leurs papattes. Parce que quand même, les capitalistes sont des opportunistes. Ils sauront rebondir.
Mais en fait, la peur de Darmanin, il l'a dit, hein, c'était que en fait, si on autorisait le CBD... Ah, vas-y, parce que c'était après.
Ouais,
vas-y,
c'est ça. Vas-y. Oui, mais justement, c'était sur ça que je voulais arriver aussi. C'est que justement, une autre absurdité en faveur de l'interdiction de la vente de fleurs brutes, c'est en fait un proche du dossier en fait, qui allait déclarer à l'AFP. Il a dit, les fleurs brutes de CBD sont souvent fumées et mélangées à du tabac, ce qui est nocif pour la santé. Il est gentil.
Merci, Capitaine Constat.
C'est ça. Et il souligne aussi qu'autoriser les fleurs, je pense que c'est surtout ça, aurait posé des problèmes en cas de contrôle policier. Ben oui, comment savoir si une herbe est CBD ou elle est THC ? Eh ben oui, hein, comment on fait ? Donc,
ben, on utilise un test.
Parce que sans analyse, en fait, il est absolument impossible, vraiment, il est absolument impossible de savoir quelle fleur est CBD et quelle fleur est THC. C'est absolument impossible. Elles se ressemblent. C'est exactement la même chose.
Tu la fumes et tu regardes l'effet.
On devrait peut-être leur conseiller ça, effectivement. Donc, si on en doutait, hein, qu'on a bien les keufs et les gouvernants les plus abrutis, ben, il faut quand même savoir que dans certains pays où tout cela est autorisé, il existe des testeurs.
Bien sûr, c'est fou,
hein. C'est complètement fou. Alors, moi, ouais, c'est drôle, je me suis dit, attends, je vais aller voir.
En plus, c'est pas compliqué.
Non, mais justement, je vais aller voir, ouais, en fait, sur Internet, et je suis tombé sur, en fait, une de ces entreprises qui vend ces tests, en disant tests utilisés par certaines polices, etc.
En Suisse, notamment, ça a été utilisé dans plein de pays.
Et le test, en fait, il fonctionne comment ? Vous avez une pochette, un zip, hein, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit pochon, avec dedans deux petites fioles. Vous mettez un peu d'herbe dedans, du cannabis que vous trouvez, et vous fermez le zip, évidemment, et vous brisez les deux ampoules. Si votre produit vire au rouge, il s'agit de CBD. Donc, on laisse les gens tranquilles. Si il devient bleu, eh ben, c'est du THC. On devra aussi laisser les gens tranquilles, mais c'est pas le cas. Mais donc voilà, donc en fait, C'est vraiment pas compliqué.
Non, puis ça prend, je crois, 2 ou 3 minutes.
Ah, mais hein, c'est, voilà. Oui, c'est vraiment absolument rien. Enfin, je veux dire, ils sont capables d'arrêter les gens pour les faire souffler dans un ballon. Je pense que c'est pas plus compliqué dans un éthylotest. Ouais. C'est pas plus compliqué.
Ni plus long,
c'est ça, en fait. Mais bon, ça doit sûrement coûter un peu d'argent. On se dit, bon, tiens, on va pas la dépenser pour ça. On va continuer de penser que les gens sont absolument idiots et consommateurs de substances nocives. Et puis bon. Ah, au-delà de ça, quand même, on peut se dire qu'il y a toujours rien, en fait, pour les cultivateurs qui voudraient faire pousser des fleurs dans leur jardin, dans leur placard, même ne s'agissant que de plantes CBD, hein, qu'on s'entend bien.
De l'autoproduction.
En fait. Parce qu'il faut quand même, être clair, c'est-à-dire que les prix de vente dans les magasins CBD, c'est absolument
honteux.
Hallucinant. Non, mais c'est vraiment hallucinant. On est à des, je crois, 20 ou 30 euros le gramme.
Oui, non, mais c'est honteux.
Donc c'est juste...
J'ai ça sans déconner. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement autour de cette substance. Donc du coup, il y a des gens qui ont flairé le business. Ah bah, et ça, on est en capitalisme, hein, donc c'est un peu logique. Et donc du coup, oui, ils pratiquent des prix qui sont largement honteux par rapport à la substance qu'ils vendent et aux... Enfin, au besoin que ça nécessite avant, enfin voilà, il y a un moment donné, ils font pas de la truffe. Hein.
Et puis on peut aussi se dire évidemment qu'il y a certaines personnes, j'en ai connu, hein, qui étaient, enfin qui sont handicapées en fauteuil, etc.
Oui, oui, qui en ont besoin.
Donc des gens qui sont déjà souvent dans la précarité, hein, parce qu'on le rappelle, hein, tout ça, quand vous êtes handicapé ou autre, c'est une honte, les sommes qu'on peut donner aux personnes en situation de handicap. Et en fait, tu dis, bah, à la rigueur, ce qui serait le mieux pour elles, c'est qu'elles puissent faire pousser des fleurs, etc. Ben non, en fait, il faut qu'elles aillent acheter des trucs à 30 balles le gramme, et en fait, c'est absolument honteux. Donc de ce côté-là, rien de neuf, hein. Je laisse surtout pas l'autonomie aux gens de faire pousser.
Encore une fois, on privilégie l'industrie.
Mais bien évidemment,
toujours la même
on privilégie les gros. C'est le rôle de l'État, hein, c'est le rôle du pouvoir, quel qu'il soit. Et évidemment, là on a parlé de CBD, je vous rassure, toujours absolument aucune avancée pour les consommateurs et consommatrices de cannabis contenant du THC, hein, appelé consommateur-consommatrice récréatif. Eux et elles continuent d'être de dangereux criminels.
Ouais, mais c'est ça qui est faux.
Mais oui.
Enfin, en France, on a quand même une culture où on met le vin en avant. Non, mais c'est quand même hyper faux cul, quoi. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein, moi, je suis pas un fan des gens qui se défoncent la gueule à 100% et qu'il faut ramasser tous les soirs. C'est pas mon propos. Simplement, à un moment donné, je pense qu'on est des adultes, que si on connaît les substances et qu'on sait ce qu'on fait avec, ça se passe mieux en général, parce qu'on connaît aussi nos limites, qu'on fait attention à ça. Et en fait, finalement, bah, au nom du vin, on ne fait quasiment plus de santé publique sur l'alcool, hormis pour le volant.
Oui.
C'est-à-dire qu'on dit... voilà.
Oui, même on a même allégé certaines lois, je crois, qui interdisaient de faire de la pub, quand maintenant, t'as le droit de faire de la pub,
parce qu'on a cette culture-là. Or, je vais le dire très calmement et très clairement, il y a beaucoup plus de risques avec l'alcool qu'avec le THC. Et c'est un fait. C'est-à-dire que même les médecins le disent. Ils disent, mais même si... On sait qu'aujourd'hui, il y a entre 5 et 6 millions de personnes qui fument régulièrement du THC en France. Le taux de risque et le taux de d'hospitalisation est extrêmement faible comparé à l'alcool. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Soit on veut faire une politique straight edge et on dit on enlève tout, tout ce qui n'est pas bon pour l'être humain et on boit que de l'eau et qu'on mange que des cookies vegan. non, mais pourquoi pas? On pourrait avoir, enfin, l'État pourrait avoir cette position-là, dire moi je veux vous empêcher à tout prix de prendre n'importe quelle substance. Soit on arrête de se foutre de la gueule du monde et on fait une vraie politique de prévention. Et c'est la prévention, c'est le savoir, c'est-à-dire c'est de dire...
C'est de l'éducation aux substances,
exactement.
Fait.
Et je pense que tant qu'on ne fera pas ça, en fait, on sera dans une espèce d'entre-deux complètement foireux et qui ne profitera finalement qu'aux gros, c'est-à-dire qu'aux industriels, qu'aux multinationales, qu'aux ceux qui auront... Parce qu'eux, ils auront un poids économique et donc un poids politique, parce que c'est comme ça que ça marche. Et eux, ils feront passer bah, tout ce qui les arrange. Et le problème, il est là, c'est que pour moi, le vrai problème, c'est qu'on ne se pose pas la question dans le bon sens.
Oui, ça arrange... Alors après, concernant le THC, ça arrange évidemment les gros, etc. Mais ça arrange aussi le marché noir. Et c'est absolument terrible, je veux dire... Je vous le dis honnêtement, moi, pour moi, en fait, je parle pas des petits dealers qui sont les petites mains, en fait, des barons.
Non,
parce que c'est des petites mains, c'est des ouvriers, c'est exactement
c'est
ça. Contre les ouvriers, j'aurais jamais rien. Par contre, les patrons, c'est comme une célèbre chanson Anar le dit, faut foutre ton, non, c'est pas ton
patron.
Mais... Pend ton patron, en fait. Donc, le patron, qu'il soit d'une entreprise industrielle ou que ça soit un baron du cannabis, c'est pareil, en fait, hein. Ce sont des sales profiteurs qui usent aussi de la misère, etc. Donc ça, c'est absolument sur ça. Mais d'où, justement, avoir une vraie politique émancipatrice, quoi.
Ouais,
arrêtons de prendre les gens pour des idiots, en fait. Enfin, des gens qui fument, il y en a. Mais effectivement, il vaut mieux savoir connaître les substances, etc., etc., pour mieux les appréhender. Parce qu'en fait, l'interdiction, on se rend bien compte que la France est un des pays qui a la législation la plus féroce. Et en fait, c'est un des pays où il y a le plus de consommateurs. Donc, c'est que ça ne marche pas.
C'est normal, souvent, quand on dit à quelqu'un « ne fais pas ça », voilà.
Mais ouais, non, mais c'est vraiment... Et je voulais juste quand même terminer aussi, parce que, ouais, je suis à la bourre, c'est rappeler aussi aux auditeurs et auditrices, ne vous laissez pas embobiner par les politicards qui vont vous parler de légalisation du cannabis. Tous les 5 ans et avant tous les 7 ans, il y avait un gugus qui venait vous dire « Non, on va faire... » Écoutez, laissez tomber, je pense que si c'est des questions qui vous importent vraiment, vaut mieux se mobiliser sur d'autre manière que de croire un politicaire qui va vous légaliser tout ça, parce qu'en plus on peut le voir comme dans d'autres pays hein, où ça a été légalisé, ce sont les gros finalement qui sont souvent bien favorisés, sûr. Alors que les cannabis clubs et les cannabis trop sont très souvent méprisés, voire c'est ça en fait. Ouais. Donc là aussi en fait, juste légaliser le cannabis, ça ne dit pas tout de ce qu'il y a derrière, etc. Et puis l'éducation aux substances, c'est aussi de toutes les substances au-delà de l'alcool et du cannabis.
Mais aussi les médicaments, mais aussi plein de choses. Moi, je pense qu'il y a un vrai besoin, en fait, de tout ça.
Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair dans mon sujet, mais...
Clara, c'est à l'air.
Oui, oui.
Ah ben voilà, tu vois, nous, on est deux à te dire que ça va.
Bon, ben écoute, on ne va peut-être pas faire durer plus que ça, on va passer à la musique, parce qu'il y en a un autre qui doit parler après. Allez, on y go.
Un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans. John McCollandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. John McCollandais, Moma Sinulandais. Si tu te rébelles, tu peux prendre 20 ans, mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu suis le président, tu manges 20 ans. Si tu es contre le mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de changement. Ici, le jugement, c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McCollandais, Moma Sinulandais. Les mêmes actions produisent les mêmes effets. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Un peu c'est 20 ans. Quand tu changes de camp c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. John McCollandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. John McCollandais, Moma Sinulandais. Anga Sabali Kounoutouye Kounouye.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Cagnot 102.2 évidemment, et sur la bande, sur la F, sur l'internet aussi évidemment.
Enfin là-bas quoi.
Ouais, je suis désolé.
On l'a écouté quoi.
Ouais, c'est ça. Et bien là, on vient d'écouter le tout nouveau titre qui est sorti de Tiken Jafakoli. Il est sorti, je crois, vendredi. Et ça s'appelle Gouvernement 20 ans. Évidemment, si vous êtes avec eux, vous en êtes tranquille pour 20 ans. Si vous êtes contre eux, vous êtes dans la merde au moins pour 20 ans. C'est voilà, ça. Solidarité avec toutes celles et ceux qui se battent finalement contre tous les pouvoirs despotiques.
Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une grande pensée pour le Kazakhstan ce soir.
Ouais.
Parce que voilà. Donc ça, c'est un massacre à l'ancienne, comme on
dit. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est Fab qui tient le crachoir pour la suite. Et toi, tu vas nous parler...
D'un fume-livre. Voilà. De la famille Bolloré.
Ah, ça, ça
va. Vous allez adorer. Alors, ce soir, je vais vous parler de Dieu, la science, l'épreuve.
Mais quel programme, dites-moi.
Donc voilà, c'est donc le titre du livre dont je vais vous parler ce soir. Et alors, autant vous le dire, je ne vais pas vous en parler en bien, hein, donc autant que vous le sachiez immédiatement.
C'est étonnant, ça.
Et je vais quand même pas vous livrer le sous-titre, hein, parce que le sous-titre n'est autre que « À l'aube d'une révolution ». Alors, révolution, c'est un mot qui est mis à toutes les sauces, hein, et qui a même servi de nom au programme de Macron pour la précédente campagne présidentielle. Ouais. Bref, on le sent, le pavé de 590 pages a pour but de nous dire que Dieu existe, que la science le démontre et que nous, les impies et les incroyants, sommes dans le déni et dans la faute. Voilà.
Alors, amen.
J'osais pas la faute. Les deux auteurs ne sont pas n'importe qui. Hein. On a, d'un côté, on a Michel-Yves Bolloré. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça, Bolloré ?
Bolloré, oui, ça.
Donc,
ça
très proche et a priori membre de l'Opus Dei. Oui, oui, le truc qui fait suite à l'Inquisition dans l'Église catholique et dont la représentante en France est une certaine Christine Boutin.
Ouais, un truc bien catho-intégriste, quoi.
Bon, comment tu oses dire ça ?
Ah, pardon.
C'est un cercle de réflexion catholique. Voilà. Et accessoirement, et j'y reviendrai, c'est le frère de Vincent Bolloré, le mania très droitier et catholique des médias, détenteur de CNews, Canal+, Europe 1 et autres joyeusetés, C8, je crois aussi, où officie un certain Hanouna.
Voilà. C'est ça.
De l'autre côté, on trouve Olivier Bonassis. Alors, Bonassis, Siès, je ne sais pas trop comment on se dit son nom, pardon. Alors lui, c'est un révélé. Alors, les révélés, hein, comprenez, un homme qui a eu l'illumination. Dieu est entré dans sa vie. Voilà, ça fait mal. Et il est depuis le fondateur du site d'actualité chrétienne Aletheia. Alors Aletheia, vous en avez déjà entendu parler parce que c'est ceux qui avaient fait des fake news, comme on dit maintenant, des fausses informations, notamment sur des chrétiens qui étaient... opprimés à certains endroits du monde. Alors, je ne parle pas des chrétiens d'Orient, c'est un truc à part, mais ils avaient tendance un petit peu à gonfler les choses de façon assez... voilà, donc voilà. Mais c'est le site le plus suivi par les chrétiens dans le monde. Hein. Donc,
sérieux
voilà, oui. Et du Centre international Marie de Nazareth en Israël. Voilà. Donc, on sent que c'est un monsieur, lui aussi, qui remet en doute sa foi.
Hein. Oui, c'est ça. On sent bien. Le doute l'habite.
Alors, il y a quelque chose de, gênant d'un seul coup. Hein. Quand vous écoutez La Causerie, hein, ce que vous êtes en train de faire, j'espère, vous savez que vous écoutez des gens proches de l'anarchie, de la liberté, des anticléricaux, qui font de la rationalité le moteur de leur vie. Voilà, ça, c'est ce qu'on est. Mais là, quand ces deux-là se retrouvent sur les plateaux de télévision, de radio ou dans des interviews, il est rarement rappelé d'où ils parlent, c'est-à-dire qui ils sont, quels sont leurs engagements et quels sont finalement leurs liens avec l'Église et ou la chrétienté. Oui. Autant le savoir, hein, ce sont deux propagandistes chrétiens, des paladins modernes en quelque sorte. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que les paladins, c'était le plus haut grade en fait, de ceux qui allaient faire les croisades, c'était des chevaliers, ce qu'on appelait paladins. Et c'est ceux qui avaient le droit de tuer car ils avaient le bras de Dieu.
Mais c'est formidable.
Voilà. C'est un peu pratique. Alors le livre, alors, je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas tapé les 590 pages et surtout je n'allais pas aller acheter l'ensemble de l'œuvre de ces deux messieurs. Donc je n'ai pas eu le temps d'aller l'emprunter non plus, pour être très clair. J'ai donc trouvé des extraits et des passages longs. Merci la magie d'Internet. Donc voilà. Et j'ai pu lire comment ces personnes tordaient la science pour lui faire dire ce qui les arrange. Alors oui, vous pouvez estimer que c'est inadmissible ce que je suis en train de faire, mais finalement, ce n'est pas plus de mauvaise foi que ce qu'ils font, eux. En fait, leur idée est simple. Tout ce qui est complexe, très fin, l'ADN par exemple, tout ce qui est équilibré, la rotation des planètes autour des étoiles, tout ce qui est bien rangé et ne peut l'être que si un esprit supérieur a créé les règles pour en arriver là. Voilà, en gros, c'est ça leur thèse. Alors moi, sur les 590 pages, j'ai dû en lire un peu plus de 200, donc voilà. Et leur thèse, elle est très claire, quoi. C'est-à-dire que c'est à chaque fois que vous arrivez à quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, c'est Dieu. Voilà. Oui.
Et ce qui est calé et comme une horloge, c'est forcément qu'il y a un horloger.
Et forcément, il y a un horloger cosmique. Ça, c'était si cher aux frères Bogdanov qui nous ont quittés. Non, rien.
Ils ont rejoint leur dieu. Hein,
voilà, j'allais dire une horreur. Alors, en fait, c'est les mêmes bases que les livres précédents sur le sujet, dont celui des frères Bogdanov. Donc, l'idée, elle est simpliste, en fait, et pourtant, elle rassure depuis des millénaires. Tout ce que l'on n'a pas encore expliqué est donc l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de neuf là-dedans, en fait. Hein. Nos ancêtres y vénéraient la foudre, la prenant comme la colère d'un dieu, avant de comprendre que les orages, ils créaient la foudre, et que finalement, c'était un phénomène naturel. De la même façon, bien des civilisations pensaient que les éclipses étaient la manifestation de leur dieu qui passait devant le soleil pour se rappeler à eux. Bon, bref, en 590 pages, on va nous refaire le coup des mystères inexplicables qui sont l'œuvre de Dieu. Il fallait oser. Hein. Alors, juste pour mémoire, c'est la base de tous les livres saints, hein, les mystères inexplicables qui sont l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est, voilà. Et en fait, ils ont osé donc faire 590 pages pour nous ressucer la Bible. C'est peut-être pas très bon. Alors, mais cette pseudo-démonstration n'est que le fruit de la moitié du livre à peine. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai trouvé les extraits, d'un coup, je me dis, tiens, c'est drôle, mais il y a une partie où on vrille complètement. Et en fait, en croisant les interviews qu'ils ont pu faire, et en regardant, parce que j'ai quand même regardé ce qu'ils disaient, et en lisant un petit peu plus, en fait c'est ce qu'on appelle du name-dropping. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la première moitié du livre, c'est expédié à coup d'avalanche de noms cités. C'est les fameux, hein, ils sont 20 grands scientifiques, tous croyants ou ayant eu la révélation, bien entendu, parce que c'est marrant, ils n'ont pas trop travaillé avec des scientifiques athées. Et d'ailleurs, on peut voir que ce sont donc tous des spécialistes, mais qu'ils sont surtout spécialistes du fait qu'ils sont croyants. Donc ouais, c'est un peu étonnant. Et voilà. Donc on sent quand même le côté très scientifique de la démarche. Je vous rappelle qu'en science, normalement, on fait une thèse et une antithèse, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de tester les deux côtés. Non, là, ils ont pris que des croyants, donc c'était sûr de ne pas être trop contrarié. Mais aussi, en fait, ils ont 200 citations de scientifiques ou de philosophes, hein, dont plusieurs, et j'ai pu le constater moi-même, sont tronquées, là où ça les arrange, où ça arrange les auteurs. Voilà, ils font dire à Aristote des choses qu'Aristote ne pensait pas, vous voyez.
Oui, mais il ne pourra pas venir pour dire qu'il n'a pas dit ça.
Non, il est mort.
C'est ça l'avantage de faire parler les morts.
Ouais, et donc, alors, je veux aussi parler de la façon dont le livre est présenté, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est aussi ça. Moi, ce n'est pas pour parler du livre en lui-même. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de nous faire croire que Dieu existe parce qu'on n'arrive pas encore à expliquer la physique quantique, quoi. Je veux dire, enfin, c'est bateau. Je vais être très, très méchant, mais on est dans un pays où la culture scientifique est très peu diffusée. Donc, en fait, ça fait peur au gogo, comme on dit. C'est-à-dire que les gens disent, oh là là, il emploie des mots compliqués, il dit physique quantique, oh là là, il emploie théorie des cordes, oh là, ça doit être complexe. Alors qu'en fait, ce ne sont que des théories et des théorèmes de science et qu'en fait, bah, c'est pas parce qu'on n'a pas encore tout compris qu'on ne va pas comprendre demain. Vous voyez,
c'est oui, un peu et c'est pas parce qu'on n'a pas encore expliqué que c'est Dieu.
Exactement.
Ça ne fait pas une démonstration de l'existence
non,
de Dieu. En
ça fait juste un truc pour dire « Ah ah, tu vois, tu ne sais pas, c'est Dieu. » Voilà, bon. Donc je vais vous lire un extrait, enfin pas un extrait, je vais vous lire tout le quatrième de couverture. Mais je vais le découper. Alors ça commence comme ça. 3 ans de travail avec plus de 20 scientifiques et de spécialistes de haut niveau. Voici révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu. Voilà, donc ça c'est la première phrase, hein. Oui, je la fais avec le ton de la radio,
oui.
Enfin, pas de Radio Canu, hein, de la radio Bolloré. C'est là donc la première phrase et c'est ce qu'on appelle faire appel à l'autorité,
hein, tout simplement. Clairement, oui, quoi.
Vous lisez la première phrase, c'est en gros, nous on a tout compris et vous, vous êtes des cons.
Ouais.
Voilà. Alors les mots clés, hein, sont là, hein. On a travaillé, scientifique et spécialiste, parce que ça, ça fait bien. Sauf qu'il ne vous dit jamais spécialiste en quoi. Parce qu'après tout, c'est quelqu'un qui est spécialiste en mathématiques, je ne vois pas ce qu'il fout là-dedans, mais voilà. Il vous dit scientifique. Bah, scientifique, ça va du psychiatre au psychanalyste, en passant par le gars qui fait de la physique quantique. Hein, donc voilà. Et on précise même, hein, dans la phrase, qu'ils sont de haut niveau. Parce oui. que ça, c'est un truc...
Ah, voilà. Mais là, c'est vraiment genre, toi, t'en sais pas autant, alors ta gueule.
Alors voilà. Et si, ça, si avec ça, vous ne croyez pas, attention, hein, ça va... Voilà, je continue. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin... Les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à Dieu créateur. À un Dieu créateur. C'est beau, hein ?
Mais c'est surtout affligeant.
Ah oui, mais c'est très beau. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle en fait la fausse reconnaissance. C'est-à-dire, ça s'appelle comme ça en rhétorique. Hein. On dit que oui, Dieu a été bousculé par les découvertes, mais attention, c'est temporaire. Hein. Vous voyez, on reconnaît que... Mais en fait, non.
Voilà. Oui, c'est surtout que tous ceux qui ont dit ça, ils pensaient pouvoir évacuer Dieu, ben, alors qu'en fait, arrivé. Nous, on vous dit que c'est pas possible, voilà. En fait.
Alors, je continue, parce que c'est toujours du très haut niveau. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers et de la complexité du vivant se sont succédés. Ça va ? Vous accrochez là ?
Bon. Ouais.
Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. C'est chouette, hein ? Voilà, donc. Alors là, c'est quand même du high level, du très haut niveau. Hein.
En fait, c'est le sous-texte qui est intéressant.
Il est fabuleux. Alors, c'est prendre ce qui est venu renforcer les sciences et la compréhension comme quelque chose qui aurait ébranlé une croyance. Alors, je rappellerai à ces deux messieurs, les scientifiques ne croient pas, ils pensent. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, hein, on va le dire tout de suite. C'est-à-dire que les scientifiques, ils croient pas que la relativité existe, ils pensent que la relativité est démontrée. C'est pas la même chose, en fait, hein, vous voyez, c'est pas le même... voilà. Donc déjà, au départ, c'est une entourloupe, cette phrase, parce qu'ils partent du principe que les scientifiques sont des croyants.
Ah, mais c'est
les...
ça c'est,
Sauf
c'est...
que non, les scientifiques, ils sont matérialistes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, ils peuvent être croyants par ailleurs, mais dans leur métier, en fait, ils sont matérialistes. C'est-à-dire qu'il faut que... ce qu'ils affirment soit démontré.
Bah, voilà. C'est ça, alors que là, on a quand même deux gugus avec leurs 20 copains qui viennent nous dire Dieu existe, mais ils n'ont aucune démonstration de la véracité de l'existence de Dieu.
Attends,
en fait.
Je te parlais de la deuxième partie du livre.
Ah, pardon, ok, je m'énerve trop. Pardon.
Non, sauf que le matérialisme, je l'aurais dit, n'est pas une croyance, hein, c'est le fait de se référer aux dernières découvertes scientifiques validées pour expliquer le monde.
C'est ce étayé, que veut dire matérialisme. C'est démontré, c'est.
Voilà. En commentant une antiphrase, après avoir complexifié le propos par une série de concepts balancés sans lien entre eux. Oui, parce que alors, je vous le dis tout de suite, hein, les concepts que je vous ai balancés, il n'y a pas de lien entre les deux. Ça donne l'impression d'un grand tout. En fait, non. Ben, donc voilà. Les auteurs sont en train de nous expliquer que les sciences sont une croyance comme les autres. En fait, ils essayent de faire ce qu'on appelle de la relativisation, c'est-à-dire de nous dire, nous on croit, et ben, c'est au même niveau que ce qu'on démontre. Ouais. Et ben non. Pardon, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qu'on croit n'est pas au même niveau qu'on démontre. Je vais l'expliquer tout de suite. Je mets un costume de Spider-Man et je crois que je peux m'accrocher au mur. Bon, bah, je peux le croire. J'essaye de m'accrocher au mur, ça ne marche pas. En fait, c'est la différence entre la croyance et la démonstration. Voilà. Et donc, les sciences ne seraient donc pas légitimes pour contrer la croyance en Dieu. C'est ça qu'ils nous disent, sauf qu'en fait, mais ils n'ont rien inventé. C'est la Bible, c'est les livres saints, c'est tout ça. C'est le fameux « la foi ne s'explique pas ». Vous voyez, mais c'est juste enrobé dans une espèce de pseudo-scientisme.
Oui, pseudo-matérialisme, voilà. Je ne sais pas quoi.
Oui, c'est ça. Ils créent comme si, en fait, ils essayent de nous remettre au goût du jour, ce qui au XIXe siècle était mis par l'Église catholique, c'est-à-dire l'idée que le scientisme existe. C'est-à-dire que la science, c'est une religion et que le scientisme existe. Alors que je rappelle que le scientisme, ça vient des religieux qui, en fait, pour essayer de contrer l'avancée, justement, des connaissances, ont dit, ce sont des croyants, donc ce sont des scientistes au sens secte, vous voyez. Alors qu'en fait, non, il y a la science, les sciences existent, le scientisme, c'est juste dans leur tête.
Mais surtout qu'en plus, la science, tu peux l'interroger, tu peux la questionner, tu peux tout ça.
Surtout, les croyances... Les scientifiques admettent d'avoir tort. Hein,
oui, c'est ça, c'est ça.
Le cas des croyants.
C'est-à-dire que les croyances, on ne les interroge que très rarement, et avec les plus vénères, il ne faut surtout pas les interroger, sinon vous en risquez beaucoup pour votre vie.
Oui, on s'en souvient, il y a 7 ans. Donc rien de neuf là-dedans, on est dans le credo des religions qui ont pour but de, ces dernières années, de poser les savoirs comme des croyances pour mieux les nier. En fait, on est dans ce qui se fait en ce moment. Je continue sur le quatrième de couverture. Attention, je vais essayer de reprendre ma voix Bolloré. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ses avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire ? Une invitation à la réflexion et au débat. Voilà, alors là, on est dans la plus pure manipulation. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une forme de manipulation rhétorique. Les scientifiques sont donc des gens trop compliqués. Sous-entendu, eux, ils ne savent pas vous parler, ce qui n'est pas vrai, faut pas se mentir. Et ils sont trop compliqués pour expliquer ce qu'ils font. Nous, on va vous parler avec des mots simples, compréhensibles. Franchement, c'est putassier, mais on n'est plus à ça près. Et sans preuve aucune, ils assènent que Dieu existe, parce que c'est finalement l'aboutissement de leur des trucs, et qu'ils en ont établi la preuve. Mais que tout cela est pour inviter au débat et à la réflexion. deux notions qu'ils ont niées quatre lignes plus haut, si vous vous souvenez, hein, vu qu'ils avaient une preuve irréfutable, et une preuve irréfutable par définition, ça ne se discute pas. Donc c'est un bel exemple de manipulation par écrit, des livres saints, hein, finalement, on est dans la droite ligne de tout ce qui se fait depuis des millénaires. Alors je vais venir sur la seconde partie du livre. Alors elle est consacrée à expliquer que le seul vrai Dieu est en fait le Dieu des chrétiens, hein, arrivé à nous par deux révélations, d'abord aux Hébreux, devenus le peuple juif, puis aux chrétiens, par la mort de Jésus. Voilà. Sur la croix, pour nous laver de nos péchés. Hein. Je vais la faire courte. Voilà. Alors même si les auteurs s'en défendent, ils n'arrêtent pas de dire partout « Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, nous, on a pris des exemples parce que c'est ceux qui parlaient le plus et puis c'est ceux qu'on pouvait prendre. Mais en fait, ils parlent que du Dieu des chrétiens. Donc finalement, oui, c'est ça l'idée. Toute la seconde partie, hein, donc par l'étude de miracles, je mets des guillemets, elles sont tous liés à la Bible. Hein. Tous les miracles sont liés à la Bible ou aux croyances chrétiennes. Donc c'est quand même étonnant. Hein. Il n'y a donc pas de miracle en Inde, par exemple. Ce n'est qu'une série en fait, de portes enfoncées pour dire que seules les révélations bibliques sont vraies de vraies.
Oui, ça s'appelle juste une attaque en règle des cathos sur les autres religions.
Exactement. En fait, les sciences dans cette deuxième partie, elles s'éloignent, et entre nous tant mieux, pour mieux laisser place finalement à ce qu'on de la propagande religieuse
c'est
de
exactement
base.
Exactement ça.
Alors le succès de ce livre, il est quand même monté de toutes pièces, on ne va pas se mentir. Alors comment un livre pareil a-t-il pu avoir un tel succès ? C'est quand même pas un truc très sexy quand même. Se hissant dans les meilleures ventes de fin d'année. Oui, parce que ce livre a été offert beaucoup à Noël, et ça, je le regrette. Ouais, vraiment. Eh bien, c'est quand même pratique d'être le frère de Vincent Bolloré.
Non.
Faut quand même pas trop se mentir.
Ça, je veux pas te croire.
Ça vous assure une très large couverture radio et télévisuelle.
Voilà. Non.
Alors, par exemple, quand vous passez chez Hanouna, et c'est 1,5 million de téléspectateurs, c'est pas rien quand même. Hein.
Ah, non, c'est pas rien.
Dans plusieurs émissions de CNews, sur C8, dans 4 émissions, sur Canal+, en clair, pas dans la partie cryptée, ça aide en fait, faut pas se tromper, à ce qu'on vous connaisse et que d'un seul coup on se dise ce livre doit valoir quelque chose. Et le tout, dans toutes ces émissions, alors je me les suis pas toutes faites parce que j'avais pas trop le temps, j'avoue, j'en ai fait 5 quand même sur celles que j'ai citées, il n'y a aucune contradiction. Ben c'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne va leur dire ce que vous dites n'est pas vrai, ou ce que vous avancez n'est que votre conviction, ou d'où parlez-vous ? Non ? On les écoute comme si c'était des prêcheurs, c'est ça.
Oui, c'est ça, et parce que je pense même que sur ces différents plateaux, il n'y a pas eu grand monde pour dire « bah non, vous n'avez pas assez de preuves, etc. »
Ah non, non, non.
Par contre, j'imagine l'inverse, c'est-à-dire un livre, allez, on va dire, daté, radical, matérialiste.
Ah là, par contre, tu fais rentrer
je pense que là, on dira « oui, mais tu ne peux pas aller contre les croyances des gens quand même, tu vas les froisser. »
Ouais, parce que on les repassera après. Alors, il faut noter que dans les émissions du service public, radio et télévision, ça a été beaucoup moins le cas pour les deux auteurs, et ils ont été beaucoup plus « attaqués », entre guillemets, c'est-à-dire où il y a des gens, des journalistes ou même des invités sur certains plateaux, qui sont venus à leur dire « Non mais attendez, c'est bien gentil, mais en fait, votre livre, il sert qu'à une chose, c'est à nous dire que le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu des chrétiens, par exemple. » Et en fait, ça a offusqué les deux auteurs qui ont dit « Mais c'est inadmissible, on est attaqué sur le service public. » Alors, pour deux auteurs qui prônent la réflexion et le débat, ça manque quand même pas de sel. Hein. Je me demande ce qu'ils mettent derrière ces deux mots-là. En prime, la très petite maison d'édition, c'est Guy Trédaniel. Alors Guy Trédaniel, moi j'ai cherché, c'est en fait une branche d'une grosse boîte d'émission, et on retrouve en remontant un petit peu des sous de Bolloré. Donc c'est quand même une boîte qui avait quand même pas les moyens d'avoir une couverture de presse et d'affichage telle qu'on a pu l'avoir. Ce livre, il était affiché partout. Vous alliez dans les gares, il était partout, sur tous les points relais, même dans les trucs d'affichage. Dans les rues, il y avait des panneaux d'affichage qui en parlaient. Enfin, c'était quand même un truc de fou, quoi. On sent bien là aussi quand même qu'il y a un petit coup de pouce donné. Comment ça, le groupe Bolloré est propriétaire de l'agence de pub Havas ? Non, c'est un pur hasard. Voilà. Et en parlant de la maison d'édition, elle fait dans les livres très divers, c'est basé sur la découverte de soi en mode psychologie positive, la magie, mais aussi des sujets complotistes, entre autres, et avec quelques livres aussi plus sérieux au milieu, parce qu'elle dit quand même quelques livres sérieux.
Il faut un peu se racheter quand même.
Voilà. Bref, c'est une maison d'édition qui sort sur tous les sujets d'actualité les plus variés pour vendre un maximum et faire un maximum de blé. On le voit, ce livre est une offensive religieuse pensée comme telle et pensée pour réussir, ce qui est, ne nous mentons pas, partiellement le cas. Parce que quand on arrive à vendre plus de 150 000 exemplaires d'un livre, aujourd'hui c'est une grosse vente. Et il convient de ne pas sous-estimer cette offensive-là. Car on est dans une époque charnière, et on le sait, la réaction elle va en poupe en ce moment, hein, quand même, on le constate tous. Elle surfe sur le mal-être de l'époque, sur la peur et sur la bêtise. Et ce livre est une arme de plus pour affaiblir le matérialisme et les sciences au profit d'un retour d'un obscurantisme rêvé par les tenants d'une ligne claire, Dieu, l'État et l'économie dans la même main. Voilà. Voilà pourquoi je voulais en parler ce soir, parce que vu le nombre de ventes, il est probable que des proches l'aient acheté, et cela vous promet des discussions fabuleuses dans les mois qui viennent.
Bah, carrément, oui. Ouais. Et on peut rappeler quand même hein, que Bolloré, c'est le patron de toutes ces chaînes que tu as nommées, hein, le frère donc, de cet auteur, Vincent Bolloré est un catho intégriste assumé.
Il a fait passer un film anti-avortement à 20h30 sur CNews.
Donc c'est une vraie contre-attaque.
C'est une vraie offensive.
C'est une vraie offensive du cléricalisme catho. Et alors on peut se dire qu'il ne représente rien, etc. On peut continuer de se dire que les religions ne représentent jamais rien.
Il y a des gens qui aiment bien regarder ce qui se passe aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, c'est exactement ce qui s'est passé. Les croyants, alors plutôt les protestants là-bas, ont repris d'abord des chaînes de télé, puis des radios. Aujourd'hui, une radio sur deux émise aux États-Unis est une radio religieuse. Mmh. Et en fait, ils ont petit à petit phagocyté l'espace médiatique. Et c'est ce qu'on est en train de voir arriver en France. C'est-à-dire que l'offensive Bolloré, c'est ça. Mmh. Et ce livre, en fait, c'est un des piliers de plus. Et ça va être tout le temps comme ça. Et si nous, on ne prend pas le temps de dénoncer ce que c'est, si on ne prend pas le temps de prendre conscience de ce que ça représente, on va se faire bouffer et plumer, comme a pu être plumée la gauche américaine dans les années 90 et les anards américains. Et ils le disent eux-mêmes, hein, lisez les textes qu'ils produisent en disant, en fait, on a sous-estimé le poids des médias dans tout ça, et y compris Internet. Voilà.
Bien sûr, et alors, avant qu'on fasse une pause, quand même, juste quand même, en plus, moi je pense que c'est quelque chose aussi à mettre en parallèle avec une présence quand même des croyances du côté des progressistes, des révolutionnaires, etc. Que ce soit l'anthroposophie, que ce soit les sorcières, les forces occultes, parce que pour rigoler, je veux dire, on est quand même, on peut aussi parler des billes de sucre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, l'homéopathie. Mais je veux dire, on est quand même dans le camp qui se dit contre tout, toi qui es pourri, etc. En fait, on traîne derrière énormément de croyances, alors qui ne prendront pas le nom de Jésus, Allah, Bouddha ou je sais pas qui, mais qui sont de l'ordre des croyances. Et ça, je pense que c'est aussi un vrai problème parce qu'on n'ose pas s'attaquer à des croyances qui ne sont que des croyances. Ça ne veut pas dire défoncer les personnes qui portent ces croyances, mais par contre, c'est avoir le droit de les interroger.
Bien sûr.
À partir du moment où on ne peut même pas les interroger, ben en fait, c'est qu'on laisse déjà de toute façon gagner tous ces mysticismes, toutes ces croyances, et que en fait, votre bellitude en carton, vaut mieux la replier, la ranger dans un sac. Et fermer sa grande gueule, quoi. Je suis désolé, mais c'est juste. Non, mais ça me fatigue parce que je trouve qu'il y a quand même une apathie en fait face à tous ces mouvements là et que
il faut être dans la réponse
et que je veux dire, on peut même nous la causerie, on s'est déjà fait reprendre sur des émissions qu'on a pu faire scientifiques, anticléricales, etc. Même quand on parle d'une BD comme Jésus Sixte, hein, qui est juste une BD, quoi, on a déjà eu des retours sur c'est pas bien, quoi. Mais enfin, à un moment donné.
Pourquoi c'est pas bien ?
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, on endoctrine personne, en fait.
Et moi, je vais reprendre une phrase. Alors, je sais plus quel était le scientifique. J'essaierai de la retrouver pour la semaine prochaine qui a dit ça. Mais il disait : tout pied mis en dehors du matérialisme est une chute dans le vide. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et on va partir sur de la musique.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier. Fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noire, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne, ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5h du matin, les paupières mi-closes, la musique sur pause. les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier. Plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Ou ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier. Plus fier que celle qui m'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous venez d'entendre le nouveau titre de Bernard Lavilliers et Terre Noire, le duo Terre Noire, et ça s'appelle Je tiens d'elle, et je trouve que c'est une fabuleuse chanson sur la ville de Saint-Étienne et sur les gens qui viennent de cette ville, et des voilà, et je trouvais ça très très beau, vraiment, voilà.
Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Clara?
Je cherche le CD.
Ah, Clara n'a pas CD pour la dernière. Alors, je vais faire les brèves en attendant. Alors, faisons les brèves, parce que ça se trouve, ils n'ont pas le CD, donc il faudrait qu'ils fassent autrement. Et comme on a un PC, on va se débrouiller. Alors, donc, du coup, je vais vous faire les brèves. Donc, le jeudi 13 janvier, il y a une manifestation et grève reconductible dans l'éducation nationale. Et le rendez-vous à Lyon est donné à 14h. À l'angle de la rue Jaboulet et de la rue de Marseille, dans le 7e. Et après, il y a peut-être une manifestation en direction de la préfecture du Rhône. Alors, je vous dis peut-être parce qu'en fait, vous savez qu'en ce moment, c'est compliqué pour les manifs sur Lyon, parce qu'on a une préfecture qui est taquine. Des fois, elle dit non, des fois, elle dit oui, des fois, elle dit tu passes pas par là. Donc, renseignez-vous bien avant le 13 janvier pour savoir où ça se passe, tout ça exactement auprès des différentes fédérations et syndicats qui appellent pour cette manif. Donc il y a la CNT-FTE, il y a la CGT Éducation et plein d'autres, la FSU je crois d'ailleurs de mémoire. Donc voilà, donc du coup, renseignez-vous. Et sinon, vous avez le samedi 15 janvier une permanence InfoShop qui va se tenir donc chaque samedi de 14h à 18h à la Lutine. Mais comme là ça démarre, on va le dire. Après vous souviendrez que c'est chaque samedi, on va pas vous la refaire toutes les semaines quand même. Et donc l'idée c'est que si vous êtes des apatrides, des vagabonds, des zonards et des zonardes, des voyageurs temporels, enfin tous ceux qui bougent, quoi, et que vous n'avez pas trop de moyens, et que même si vous n'êtes pas des voyageurs, mais même si vous n'avez juste pas trop de moyens, eh bien en fait vous pouvez venir chercher de l'info, des bouquins, des fanzines, tout ça. C'est à la Lutine, et à la Lutine c'est au 91 rue Montesquieu dans le 7e. Voilà, et donc n'hésitez pas à y aller pour récupérer de l'info, et puis de quoi manger dans les longues soirées d'hiver, parce que des fois, quand on vit en camtar et que c'est l'hiver, ça caille. Voilà. Donc, courage à vous, d'ailleurs. Et voilà, moi, j'ai fini les brèves. Est-ce que vous avez retrouvé le CD?
Mais oui, bien sûr. C'est juste qu'il n'était pas rangé où il devait.
La causerie, on est très organisé, vous avez remarqué.
Voilà. Ce soir, on était particulièrement pas du tout. On peut, et ben voilà, on se donne rendez-vous dimanche prochain, ouais, 22-23, comme ouais. toutes les semaines, ou à peu près. Et bien, toujours au 102.2 ou sur radiocanu.org, vu qu'en plus le streaming refonctionne, c'est formidable. Vous pouvez nous écouter bien plus loin que la petite agglomération lyonnaise. Et on va se quitter avec un titre que Clara nous a choisi.
Oui, c'est un titre de Olafur Arnalds avec Bonobo et ça s'appelle Loom.
Eh bien, on se dit à la semaine prochaine.
Des bonne bisous, écoute. Du courage.
Merci, ciao.
Ciao. Thank you.